BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le mag. Cette semaine au menu, comment attirer dans la banque de détail? C'est la question qu'on va poser dans un instant à la DRH Caisse d'Épargne Hauts-de-France. Et puis on va parler formation. La dernière mode, si vous êtes ingénieur, c'est de passer un CAP boucher ou électricien. À quoi ça sert? C'est la question qu'on va poser à François Bergerot. Il est cofondateur de l'atelier des chefs. Et puis on va parler communication, comment être plus efficace dans une réunion. Sophie Becker sera avec nous dans un instant. Happy Boulot le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Stéphanie Delvin. Bonjour, vous êtes DRH de la Caisse d'Épargne Hauts-de-France. 3000 salariés, pas sous vos ordres, mais dans votre spectre. C'est qui votre chef à la Caisse d'Épargne? C'est par région ou c'est le DRH France?
Alors, on est organisé en entreprise régionale, on est une banque régionale de proximité, donc nous avons un comité de direction générale en région.
Donc vous n'avez pas un DRH France à qui vous rendez des comptes?
Alors, on travaille avec la DRH du groupe BPCE, puisqu'on appartient au groupe BPCE, qui est un très gros réseau bancaire français, et donc on bénéficie aussi de l'expertise de la DRH Group.
Mais vous avez une vision régionale des ressources humaines, c'est quoi la spécificité Hauts-de-France?
Alors vraiment, la spécificité Hauts-de-France, c'est qu'on va pouvoir conduire et mener une politique RH qui est vraiment adaptée aux enjeux de nos territoires et de nos régions. Et en l'occurrence, en Hauts-de-France, nous avons une stratégie RH qui est portée sur l'attractivité des talents, le recrutement sur nos bassins d'emploi, et c'est vraiment essentiel pour nous de pouvoir être en proximité des écoles, de la région, pour pouvoir attirer, sourcer nos futurs talents.
Mais ça, c'est... j'interrogerais n'importe quel DRH de n'importe quelle région du monde, il me dirait la même chose. Il y a quoi comme différenciation dans les Hauts-de-France?
Alors, en Hauts-de-France, eh bien, on a beaucoup d'écoles, on a besoin d'attirer, comme dans tous les métier bancaire, hein, c'est pas spécifique à la Caisse d'Épargne de France, on est sur un secteur extrêmement concurrentiel, y compris dans le domaine de la RH, et donc on a besoin d'être au plus près du terrain, c'est vraiment notre modèle coopératif de banque de proximité qui fait notre force.
Mais ça veut dire que vous traînez dans les écoles, vous essayez de voir un peu quelles sont les aspirations, expliquer le nouveau métier de banquier?
Oui, ça c'est tout à fait essentiel, on a besoin d'aller à la rencontre des jeunes pour présenter nos métiers, expliquer ce que sont toute la richesse de notre métier et surtout attirer pour venir faire des stages, de l'alternance et venir chez nous en CDI.
Alors vous avez un double handicap, si je puis me permettre, c'est que la Caisse d'Épargne, c'est l'image du vieil écureuil, et en plus la banque de détail, la suppression de toutes les agences, il y a un énorme mouvement dans ces métiers. Qu'est-ce que vous leur vendez comme parcours de carrière?
Alors quand on rentre à la Caisse d'Épargne Hauts-de-France, on vient se former, on est accompagné, on monte en compétence sur un métier généralement de conseiller de clientèle, et on intègre notre réseau commercial et on peut grandir dans ce réseau commercial, soit sur des métiers d'expertise, soit sur des métiers de management. Donc c'est la possibilité d'exercer une carrière professionnelle très riche et très diversifiée, et aussi d'ouvrir sur le groupe, puisqu'on est aussi un grand groupe avec des perspectives professionnelles très intéressantes, en région Hauts-de-France mais aussi nationalement.
Et qu'est-ce que vous leur dites du métier de banquier, de ce que ça veut dire aujourd'hui?
Alors, être banquier, c'est d'abord être proche de ses clients. C'est vraiment savoir les accompagner, comprendre leurs besoins, accompagner le projet de vie du client. Et ça, pour ça, il faut aimer la relation de confiance et il faut aussi savoir la créer. Donc c'est un métier extrêmement relationnel où il faut bien comprendre le besoin du client, il faut être formé et compétent. Et ce que l'on propose aux jeunes entrants qui viennent chez nous, c'est aussi un beau parcours de formation. En Caisse d'Épargne Hauts-de-France, on est sur une politique de formation très ambitieuse puisqu'on investit chaque année près de 7% de la masse salariale, c'est 7 fois plus que l'obligation légale.
Mais ça a l'air, dans votre discours, on a très envie du coup d'avoir un conseiller clientèle aussi bien formé. Mais on a tous une banque, on a tous un conseiller clientèle, et on sait tous que dans la réalité, il change tous les deux ans. qu'il n'est pas toujours à l'écoute et qu'il n'est pas toujours de très bon niveau, ne serait-ce que technique. Il y a aussi sur cette partie image quelque chose à changer ?
Alors, en effet, on travaille beaucoup avec nos équipes sur la stabilité dans nos agences. C'est vraiment un objectif RH que l'on partage aussi avec nos partenaires de la banque de détail et aussi sur le marché des entreprises. Et c'est vraiment essentiel, si on veut créer du lien de confiance avec nos clients, d'être 3 ans minimum sur un portefeuille client. Donc ça, c'est vraiment un objectif très important. La satisfaction client étant vraiment le fil conducteur de notre projet d'entreprise. Et donc, on accompagne nos salariés aussi dans le développement de leurs compétences sur ces 3 années. Et c'est un objectif que nous allons tenir.
Donc pour vous, un talent, c'est quoi dans les Hauts-de-France ? C'est quelqu'un qui connaît bien l'écosystème dans lequel il va travailler, c'est-à-dire les entreprises qui sont sur place, le bassin d'emploi. Oui. Il faut qu'il s'intéresse à sa région.
Tout à fait, c'est essentiel. Nos valeurs, c'est la proximité. Donc un talent chez nous, c'est vraiment quelqu'un qui va bien connaître son bassin d'emploi, sa zone de chalandise, les spécificités, hein, puisqu'on est sur une grosse région. Nous avons 3000 collaborateurs, 300 agences, plus d'1 million de clients particuliers. Et donc l'objectif, c'est vraiment de coller aux besoins de ses clients et de bien les connaître.
300 agences, j'imagine de moins en moins, comme toutes les banques. Comment vous faites évoluer ce métier de service, d'accueil ? Qu'est-ce que vous vendez comme perspective ?
Alors, notre métier, il évolue en effet. Il a beaucoup évolué, notamment au moment de la crise sanitaire, où nous avons accéléré sur la relation à distance, parce que notre client choisit aujourd'hui la manière dont il veut avoir sa relation avec la banque. Donc, on a travaillé la proximité clientèle sous toutes ses formes. Ça peut être une proximité physique. Et nous avons fait le choix d'être dans un modèle de proximité avec nos 300 agences, mais ça peut aussi être de la proximité relationnelle et digitale. Et donc, nous avons formé nos équipes sur la relation à distance et tous nos commerciaux aujourd'hui sont à l'aise avec cet outil de relation à distance.
Il y a un écart profond entre ceux qui rentrent et ceux justement qui voient leur métier évoluer comme ça. Il doit y avoir un certain stress chez un certain nombre des collaborateurs de l'ensemble des banques de détail.
Oui, alors notre rôle à la DRH notamment, mais en lien avec les managers, c'est de construire ces parcours d'accompagnement et de formation. Et on est vraiment en accompagnement des équipes pour les aider à faire évoluer leurs compétences métiers, mais aussi leurs compétences relationnelles, managériales et digitales, parce que ça, c'est aussi la nouveauté hein, dans l'évolution de nos métiers. Et cette évolution, elle est permanente. Et je dirais que ce qui est intéressant quand on vient chez nous, c'est qu'on a la possibilité de vivre cette évolution, de faire partie de cette aventure.
Et on pourra faire évoluer tout le monde ? C'est-à-dire que vous considérez que tout le monde va pouvoir changer de métier ?
Oui. Tout à fait, c'est un vrai parti pris que nous avons dans la politique RH. Chacun doit trouver sa place et sa contribution dans notre projet d'entreprise. Et ça, c'est tout le savoir-faire de nos équipes de la DRH en lien avec les managers, de trouver le bon projet professionnel, de construire le parcours professionnel des collaborateurs avec la formation qui va bien pour lui permettre d'être à l'aise dans sa contribution au sein de notre entreprise.
Au quotidien, vous, en tant que DRH, est-ce que vous faites de plus en plus de cas par cas, justement en fonction des craintes de chacun vis-à-vis de son métier ? Ou est-ce que vous vous dites, il y a un peu deux types de DRH ? Celui qui se dit, je fais du cas par cas, c'est normal. Celui qui dit, je ne peux pas, parce qu'au bout d'un moment, une entreprise, c'est un collectif. Vous faites partie de quelle catégorie ?
Eh bien, ni l'une ni l'autre, on fait les deux, en fait. Le sujet, c'est que vraiment, on a un projet collectif et d'embarquement de nos collaborateurs vers ces nouveaux métiers, mais on est aussi capable de faire un vrai travail de dentelle et de sur-mesure pour s'adapter à la situation du salarié et de mettre en place des dispositifs plus fins et plus précis pour permettre à chacun de prendre le virage de l'évolution de nos métiers.
Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire accepter que certains veulent du 100% télétravail et pas d'autres, que certains déménagent et d'autres pas, ça veut dire quoi ?
Alors, on a un cadre, il est clair que on construit le futur du travail, on le co-construit avec les managers et les collaborateurs, on a signé un accord télétravail qui nous permet de poser le cadre, 2 jours par semaine pour les fonctions support, 1 journée de télétravail pour les commerciaux dans notre réseau d'agences. On a expérimenté, ça fonctionne vraiment bien et donc on accompagne dans ce cadre-là. Après, quand il y a des difficultés, là c'est vraiment tout le savoir-faire, je dirais, managérial et des équipes de la DRH pour pouvoir trouver les bonnes solutions pour que le collaborateur soit le plus à l'aise possible.
1 journée, voire 2, vous êtes assez loin de certains autres secteurs où on va vers plus de flexibilité. Vous avez besoin d'avoir les gens sur place.
Alors, on a choisi un modèle mixte. Notre projet, c'est aussi un projet collectif. et il est essentiel à certains moments donnés de la semaine de pouvoir se retrouver, de travailler en équipe et de peut-être partager des moments de lien social et de cohésion que l'on n'aura pas forcément en télétravail quand je suis en relation à distance complète, je dirais, avec les clients.
Vous, vous avez une carrière très RH, c'est votre truc, les ressources humaines. Comment vous voyez aujourd'hui votre métier ? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez plus de place dans la stratégie qu'avant ou au contraire pas du tout ?
Oui, notre métier est vraiment une fonction stratégique. On est là vraiment pour accompagner notre projet d'entreprise, pour créer et porter le projet collectif, faire en sorte que tous nos managers et nos collaborateurs soient embarqués dans cette ambition et ce projet. On veut être la banque préférée des familles et des entreprises. Prise au nord de Paris, c'est une très belle ambition et notre objectif c'est d'embarquer tout le monde autour de ce projet, que chacun soit fier et devienne ambassadeur aussi de notre entreprise. Donc mon rôle de DRH, c'est vraiment de créer ces conditions de confiance, d'adhésion pour permettre à chacun de s'y retrouver aussi dans ce beau projet et dans ces moments collectifs en entreprise.
Et vous avez l'impression que la région Hauts-de-France, aujourd'hui, elle a une épingle du jeu à tirer. Il y a pas ce problème d'attractivité, presque de proximité avec l'Île-de-France.
Alors, on a de la proximité. On n'est pas loin, en effet. On a des sujets d'attractivité sur certains bassins d'emploi de la région. On peut rencontrer les mêmes sujets que sur la région Hauts-de-France, notamment la métropole lilloise, hein, où on a aussi pas mal de besoins de recrutement. Et donc, il nous faut être créatifs. Il nous faut être différents. Et c'est la raison pour laquelle on a investi avec nos équipes expérience collaborateurs, par exemple sur une application qui s'appelle Accueillez-moi et qui a vraiment pour objectif d'attirer, d'accueillir, d'améliorer notre accueil collaborateur dès la signature du contrat de travail. C'est-à-dire que je ne suis pas encore dans l'entreprise, que je suis déjà en lien et en interactivité avec ma future entreprise. Je peux tester à travers 36 défis du gaming, de la réalité virtuelle, ce qu'est ma nouvelle entreprise. Et ça marche très, très bien. Donc, on est ravis de pouvoir...
Vous n'avez pas de gens qui partent avant d'être arrivés, du coup ?
Non.
Ça ne dégoûte pas.
Et ça améliore l'expérience d'intégration, l'expérience candidat, l'expérience collaborateur. Et on mobilise davantage nos managers et nos équipes RH autour de l'accueil du nouvel arrivant.
Combien de recrutements pour cette année ?
Alors, on est à 150 recrutements CDI pour cette année, 120 alternants, puisqu'on a une politique recrutement basée sur l'alternance et on mise sur les jeunes.
Merci beaucoup Stéphanie Delva, DRH de la Caisse d'Épargne Hauts-de-France. On va parler formation et formation des métiers que peut-être vous n'aviez pas envisagé.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on va parler formation avec François Bergerot. Bonjour, vous êtes cofondateur de l'Atelier des Chefs. Vous proposez des contenus pédagogiques, des CAP en tout, mais aussi au départ surtout des CAP au métier de bouche. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, peu importe son métier, qu'on soit comptable ou ingénieur, avoir passé un CAP pâtissier ?
Je ne sais pas s'il le faut, mais en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de le faire. Des jeunes qui se forment à des métiers de business et qui passent en parallèle un CAP cuisine ou pâtissier parce qu'ils ont envie de comprendre le sous-jacent de ce vers quoi ils vont travailler. Et puis des gens qui pensent déjà à se reconvertir quelques années plus tard quand ils sont dans leur métier, que ça fait 5 ou 10 ans et qu'ils se disent, en fait, la vie, ça va être plusieurs vies.
Je vais vous caricaturer un petit peu la situation, mais en gros, il y a 10 ans quand on était, ou 20 ans quand on était à l'école, aller en CAP, c'était pour tous ceux qui étaient en situation d'échec scolaire, à juste titre ou pas. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont fait des écoles d'ingénieurs se disent « Non, il faut que je fasse plutôt un métier manuel, je vais faire un CAP ». Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ben justement, il s'est passé le fait qu'on a complètement dénigré ces métiers qui n'avaient aucune raison d'être dénigrés. En fait, un menuisier, un plombier, un électricien, un coiffeur ou un cuisinier, c'est des gens qui procurent du bonheur, qui font des choses vraiment bien. Et effectivement, pendant des années, on a dit aux enfants de troisième, bon ben toi, parce que t'es nul à l'école, tu vas aller faire ça. Et donc, ça donnait envie à personne d'aller faire ce genre de métier parce que c'était vraiment fait pour les nuls. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. C'est des métiers qui sont faits pour des gens qui peuvent être très bons dans ces métiers-là. Et et qui n'ont pas vocation à comprendre par cœur parfaitement Pythagore. On s'en fiche pour faire ce genre de métier.
Mais dans ces cas-là, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux valoriser les filières professionnelles à ce moment-là plutôt que de voir émerger des structures comme la vôtre qui prennent les gens plus tard quand ils ont bien réfléchi et commencé à gagner leur vie?
Alors déjà, il y a deux choses qui sont en train de se passer. Donc un, vous avez raison, il faut refaire un travail beaucoup plus tôt. Mais il y a une génération qui est perdue de toute façon. Donc celle-là, il faut bien la rattraper. Donc nous, on se propose de travailler pour rattraper cette génération perdue. Et puis, il y a quand même un autre phénomène qui est que nos parents faisaient carrière dans une entreprise. Nous, on a changé d'entreprise et nos enfants, ils vont changer de vie, de métier régulièrement. Et donc, tout au long de leur vie, en fait, ils vont se former parce que là, on parle d'écart très important entre comptable et cuisinier. Mais en fait, ils vont changer de vie de plein de façons. Donc, ça va continuer, ça va, je pense, s'amplifier. Ouais.
Mais ils changent de vie grâce à ces CAP-là ou c'est juste un plus, c'est juste un hobby, quoi.
Non, alors ça dépend. Il y a clairement, quand je parle des élèves des grandes écoles, eux se disent tiens, je vais aller travailler dans le monde de la cuisine ou dans le monde des cosmétiques ou dans le monde. Je veux comprendre ce qu'il y a derrière. En fait, c'est stupide de faire du marketing et pas de comprendre ce qu'il y a derrière.
Ils pourraient faire un stage.
Ils pourraient faire un stage, mais en fait, ils se disent tiens, ben, je vais aller jusqu'au bout. C'est des gens qui aiment performer, qui disent je vais aller jusqu'au bout, je vais passer mon CAP pour comprendre jusqu'au bout. Et puis, donc ça, c'est juste pour un sous-jacent, même s'ils n'envisagent pas de travailler profondément dans ce métier-là. Et puis, il y a ceux qui veulent vraiment, tout d'un coup, avoir une activité manuelle, après avoir eu une activité que intellectuelle pendant des années.
Au départ, c'était CAP boulangerie, cuisine, pâtisserie. Vous êtes ouvert à complètement d'autres horizons, la coiffure, l'esthétique, l'électrique, la diététique. C'est quoi qui est le plus demandé aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, les métiers de bouche continuent à être très très fortement demandés. Maintenant, la petite enfance, l'esthétique sont des énormes demandes. Parce qu'en fait, ce sont tous ces métiers dont on parle, nous on appelle ça les métiers de la main et de l'humain. C'est-à-dire des métiers où on donne quelque chose aux autres. Et en fait, on procure pas mal de bonheur, et donc on se procure du bonheur à soi-même, dans tous ces métiers-là.
Vous avez signé des partenariats avec Monoprix, Auchan, ou bon, les petits chaperons rouges, on parlait de la petite enfance. Quand Monoprix signe avec vous, c'est quoi l'objectif? C'est de faire évoluer les carrières en interne, ou c'est d'offrir quelque chose en plus, en mode marque employeur?
Il y a plein de raisons. Il y a des raisons, effectivement, qui sont... pour que nos salariés parlent mieux du produit, etc., et bien c'est bien qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils sachent transformer le produit. En l'occurrence, c'est quelque chose qu'on avait fait avec Auchan il y a quelques années, où les chefs de rayon s'étaient vraiment formés à la cuisine, et ça leur permet d'aller beaucoup plus loin dans la façon dont ils allaient parler du produit, et donc le vendre derrière, parce qu'ils allaient donner des idées, etc. Donc ça, c'est pour le quotidien. Il y en a d'autres qui disent, bon ben voilà, il y a peut-être des métiers qui vont être amenés à disparaître dans les prochaines années, et donc dès à présent, on veut permettre à nos salariés de se former à d'autres choses pour pas qu'ils se retrouvent sur le carreau dans deux ans et qu'ils commencent leur reconversion une fois que ce sera terminé. Y en a, c'est effectivement juste pour le plaisir et l'épanouissement personnel. Il y a plein de raisons, mais et d'ailleurs souvent les groupes nous utilisent pour ces trois types de raisons.
Vous avez 98% de taux de réussite aux examens. Vous faites comme les grands lycées parisiens, vous enlevez tous ceux qui vont pas réussir, ou vous avez une population surmotivée?
Non, alors malheureusement tout le monde ne passe pas l'examen parce que on n'a pas le droit d'inscrire les gens nous puisque ils sont en candidat libre. Ceux qui ne sont pas très motivés ne s'inscrivent pas dès le début. Voilà, donc nous on les pousse beaucoup à s'inscrire à l'examen parce qu'on sait qu'une fois qu'ils sont inscrits, ils ont plus envie d'avancer. Et ça les titille. En revanche, une fois qu'ils s'inscrivent à l'examen et qu'ils sont motivés, comme notre formation est bien pensée, et ben ils arrivent bien formés et donc ils ont leur examen.
Vous n'avez pas CAP de soudeur?
Pas encore.
7000 postes à pourvoir dans le nucléaire.
Et voilà.
Vous leur y pensez.
Aujourd'hui, mais là où vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est exactement la façon dont on fabrique nos formations, c'est qu'on regarde ce qu'ont envie de faire les gens, et puis là où il y a des postes à pourvoir, notre but n'est pas de former les gens, notre but est de leur proposer des débouchés.
Merci beaucoup François Bergerot, cofondateur de l'Atelier des Chefs. On va parler communication.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Et on va parler communication avec Sophie Becker. Bonjour, vous êtes experte justement en communication. On parle trop, on parle tout le temps, on parle en réunion. Bon, moi je parle trop, mais à la rigueur, c'est presque, je suis payée pour ça. Mais en fait, dans l'entreprise, on passe son temps, ses journées à faire des réunions, puis à travailler quand on a un peu de temps. Absolument. Comment on fait aujourd'hui pour avoir une communication utile, construite, défini. Est-ce qu'il faut systématiquement répéter, se chronométrer et ne jamais s'exprimer sans avoir déjà défini ce qu'on doit dire?
Alors, vous embarquez tout de suite sur la question de la préparation. Effectivement, se demander avant la réunion, qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat? En fait, je crois que c'est ça vraiment la question. C'est pas préparer pour préparer. En fait, on a une habitude culturelle d'éducation à l'école. Hein. On va préparer en mode grand A, grand B, grand C, mais finalement, on sait pas exactement quelle est la partie réellement utile, la partie réellement efficace. Donc, se demander quel est le résultat qu'on va obtenir en sortie de réunion. Il faut que l'après soit différent de l'avant. Donc, si on n'arrive pas ça avec ça dans la réunion, on va effectivement avoir les deux effets les plus classiques. On va avoir la redondance et on va avoir de la dilution.
On tue l'auditeur.
Alors, on va tuer les autres collègues qui sont dans la réunion, et quand on est en visioconférence, on va avoir l'effet, je coupe ma caméra, je coupe mon micro et je fais autre chose. Et donc, une énorme perte de temps utile, finalement, parce que tout ce qui est parlé sans être écouté et entendu, eh bien, c'est du temps perdu.
Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de réunion sans résultat. Donc, on ne peut pas dire j'ai réunion sans savoir, en fait, où est-ce qu'on va. Mais ça, on le répète déjà depuis un certain nombre de temps, même si le retour des Teams et des visios a fait qu'on a peut-être oublié. Mais ça veut dire que celui qui vient à la réunion pour écouter, lui aussi, doit avoir un but. C'est-à-dire qu'il y a celui qui parle et qui a peut-être construit, mais celui qui vient aussi écouter doit avoir un enrichissement prédéfini.
Alors là, vous m'interrogez sur le scénario de la réunion qui fait aussi partie de ce sujet de comment, finalement, améliorer la gestion du temps, puisque souvent on parle de gestion du temps par le biais de l'organisation ou de la délégation, mais pas finalement sous le sujet de, en améliorant la prise de parole, on va améliorer la gestion du temps, finalement. Donc le scénario de la réunion, ça veut dire quoi? Ça veut dire se demander si la réunion a encore une utilité. Dans toutes les entreprises que j'accompagne, il y a la réunion du vendredi parce que c'est vendredi et celle du lundi parce que c'est lundi. Ok, donc à quoi ça sert? Quelle est la finalité? Et puis, il y a aussi le qui j'invite à la réunion. Est-ce que c'est utile d'inviter telle ou telle personne? Moi, ce que j'observe dans mon métier, dans les accompagnements que je délivre, c'est que l'entreprise est incroyablement processée, codifiée, ligotée aujourd'hui par des choses qui se sont empilées en termes de contraintes.
Qui rassurent aussi parfois. Hein.
Oui, peut-être, mais enfin, il y a un moment où ça va bien, quoi, d'être rassuré. Il faut peut-être passer dans le moment qu'on vit, hein, collectivement. Il faut peut-être passer à quelque chose où on va enlever des choses pour pouvoir continuer d'en rajouter ou enlever des choses pour être tout simplement
mais
plus
utile. Mais cette ossature, elle a été construite pas pour rien. Elle était faite pour dire ces process, justement, c'est pour faire en sorte que tout le monde comprenne normalement les mêmes choses, qu'on soit au même niveau d'information. Vous dites, autorisez-vous à les enlever?
Ah oui, alors pas n'importe comment. Donc là, il y a de la méthodo. C'est bien ça que je propose. Il y a de la méthodo. Mais oui, autorisez-vous à enlever souvent, et en particulier sur le sujet de la prise de parole, on est encore dans des codes anciens. On est dans des codes de par exemple, c'est la quantité de data. Quand je dis data, c'est les informations qui vont être divulguées dans une réunion. C'est la quantité qui prime sur la qualité. Moi, j'entends les managers, les dirigeants me dire « Ah non, je ne peux pas prendre la parole seulement 5 minutes ». J'ai toujours fait au moins 20 minutes, donc je peux pas. Si je ne parle que 5 minutes, ça veut dire que je n'ai rien à dire. Alors qu'en fait, le sujet, c'est pas du tout ça. C'est comment, sur ces 20 minutes, arriver avec les 5 minutes utiles.
Et comment vous arrivez à leur faire comprendre ça?
Alors c'est pas toujours simple, parce qu'il y a beaucoup de freins, là aussi, culturels et d'éducation. C'est-à-dire qu'on est encore dans un monde du thèse, antithèse, synthèse. Donc on va encore commencer la réunion en évoquant ce qui s'est passé dans la réunion précédente. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils, notamment les mails, la transmission de documents en PDF dans une boîte mail. Il y a plein d'outils qui éviterait normalement, en théorie, de devoir faire un reprend et complète à chaque fois. Donc si vous enlevez dans la réunion de la réunion le reprend et complète de la réunion d'avant, vous allez effectivement diviser vos temps de réunion par deux. Mais ça oblige déjà à une prise de conscience, et puis ça oblige aussi à ce que l'injonction du changement, elle vienne du plus haut. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, il faut que ça rentre dans une stratégie. Ça peut pas venir du bas. En bas, on s'ennuie en réunion, on fait autre chose quand on a la possibilité de s'échapper, soit mentalement, soit physiquement quand on est en visioconférence, mais il faut que la dimension de changement de paradigme elle vienne d'en haut, elle rentre dans une stratégie où on considère que en parlant mieux, plus efficace, plus clair, on va gagner du temps de parole, on va réduire le temps des réunions, on va avoir des consignes plus claires, donc là aussi un gain de temps, on va avoir moins de conflits, et le conflit est très chronophage, entre autres choses, hein, bien sûr, mais le conflit, c'est une énorme perte de temps et de temps gâché, évidemment.
C'est presque une revalorisation de l'écrit, ce que vous nous expliquez.
Surtout pas. C'est une valorisation, alors je ne comprends pas la question. Au contraire, moi, ma recommandation, elle est d'arriver sur du... Ah oui, parce que vous parliez de la boîte mail et de...
Mais c'est-à-dire, on parle moins, oui. Si vous avez plus de documents, vous parlez moins et vous parlez plus efficace.
Alors, ma recommandation, c'est de mieux focusser, concentrer sur la partie utile du récit. Parce qu'on peut aussi être diluant et redondant dans des cris. En fait, c'est une meilleure... Derrière votre question, il y a le sujet d'une meilleure complémentarité entre l'écrit et l'oral. Et qu'est-ce qui est pertinent pour l'oral et qu'est-ce qui est pertinent pour l'écrit. Et puis, l'oral, ça doit se travailler à l'oral. Donc, on ne peut pas transposer de l'écrit à l'oral. L'oral doit se préparer à l'oral. Et là, on a une culture en France, on a une manque de culture en France de l'oralité, de la prise de parole et de cette prise de parole claire et efficace.
Ça change. On a désormais même des cours de prise de parole dans les entreprises. Ça évolue. Merci beaucoup, Sophie Becker, d'être venue nous voir dans Happy Boulot Le Mag. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.